Jesus Christus.
Antiqua et Nova, c'est le nom d'une longue note du Saint-Siège sur l'intelligence artificielle publiée aujourd'hui. L'IA est en passe de révolutionner nos vies quotidiennes et l'Église décrypte les chances et les potentiels dangers qu'elle représente, notamment lorsqu'on l'applique à la guerre. C'est ce que nous verrons avec le théologien Paolo Benanti. L'aéroport de Goma est ce soir aux mains du M23 et de troupes rwandaises. On en est à 48 heures de combat dans la capitale du Nord Kivu, tandis qu'à Kinshasa, capitale de RDC, plusieurs ambassades ont été attaquées. Une longue colonne interminable de 300 000 Palestiniens est remontée le long de la mer Méditerranée vers le nord de la bande de Gaza. Des images saisissantes d'exode que commentera pour nous le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem. Et puis enfin en Serbie, le Premier ministre a annoncé sa démission après 3 mois de manifestations depuis la mort de 15 personnes lors d'un accident à la gare de Novi Sad.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Quelles sont les opportunités et les défis soulevés par l'intelligence artificielle? C'est le thème d'un dense document rédigé par les dicastères pour la doctrine de la foi et pour la culture et l'éducation, rendu public ce matin. L'Église se félicite de la manière dont l'IA repropose de s'interroger sur ce qui fait l'être humain, sur son essence, ses responsabilités propres. L'IA garantit de nouvelles possibilités dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'économie, le travail, la santé, mais également la guerre, offrant aux esprits belliqueux de nouvelles armes. C'est ce que nous explique à regret le théologien franciscain Paolo Benanti, expert en éthique des technologies, professeur à la Grégorienne.
Pensiamo a noi come specie 60.000 anni fa, quando in una caverna per la prima volta abbiamo preso in mano una clava.
Pensez à nos aïeux il y a 60.000 ans, lorsqu'ils ont pris pour la première fois un gourdin dans une grotte. C'était un outil pour obtenir plus de noix de coco et en même temps une arme pour ouvrir plus de crânes que les autres. Chaque fois que nous sommes confrontés à la technologie, nous sommes tentés de transformer un outil en arme. Mais nous sommes également plongés dans une histoire de salut, rappelez-vous le prophète Isaïe, dans laquelle les armes peuvent devenir des outils pour cultiver, nourrir et donner la vie. Un système d'IA peut être défini comme quelque chose qui peut recevoir de l'humain un objectif et ensuite adapter les moyens pour atteindre cet objectif. Dans une guerre cependant, il apparaît plus que jamais que tous les moyens ne sont pas égaux. Depuis la grande tragédie atomique, nous avons compris qu'il y a des moyens à éviter à tout prix. Une machine, contrairement à un être humain, ne se lassera jamais de poursuivre son but et il n'y aura peut-être jamais de trêve si nous ne comptons que sur les machines. Plus la capacité humaine est grande, plus les questions auxquelles nous devons répondre sont radicales.
Les propos recueillis par Andrea Tornielli. Puis concernant l'IA, l'émergence de DeepSeek, cette nouvelle technologie chinoise à moindre coût, a provoqué hier un plongeon historique de près de 17% pour l'action du géant américain des semi-conducteurs Nvidia. L'entreprise avait lâché 589 milliards de dollars de capitalisation et elle est de nouveau ce matin proche de l'équilibre. Et puisqu'on parle de performance, un autre géant américain et ce soir dans le rouge, le constructeur Boeing, le constructeur aéronautique, a connu une perte nette de 11,82 milliards de dollars en 2024. À la une de l'actualité internationale ce soir, le sort de la ville de Goma, de son million d'habitants pour autant de déplacés sur place dans l'est de la RDC. Internet ne fonctionne pas, les informations sont parcellaires, mais des combats semblent encore en cours dans la capitale du Nord Kivu, frontalière avec le Rwanda. Et après 2 jours d'offensive, les combattants du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ont pris, semble-t-il, l'aéroport de la ville. Thierry Vircoulot revient sur les motivations du M23 et de Kigali à reprendre Goma et les chercheurs associés au Centre Afrique de l'IFEI.
Goma n'est pas un objectif militaire ni un objectif économique. Donc il est fort possible que la prise de Goma soit un objectif politique et l'objectif politique, c'est forcer le gouvernement congolais à négocier avec le M23. L'agenda politique du M23 n'a jamais été clair depuis le début de ce conflit en 2022. Et donc, on ne sait pas s'il s'agit de repartir sur la base de l'accord du 23 mars 2009 ou s'il s'agit d'inventer autre chose, on ne sait pas vraiment.
Mais quand Kigali soutient les combattants du M23, est-ce que c'est dans l'optique d'obtenir le contrôle des richesses minières qui se trouvent sur place? Est-ce que c'est ça l'objectif ultime?
C'est ce qu'on voit en tout cas depuis le début de cette rébellion. On voit que dans tous les territoires qui sont passés sous le contrôle du M23, immédiatement, la première chose qui l'a intéressé sont les mines. Et il a mis en place sa propre gouvernance des mines artisanales qui sont sous son contrôle en délivrant des permis miniers, des autorisations de faire du négoce, etc. Et on voit en effet les minerais des zones qu'il contrôle dans le Masisi, Rutshuru, etc., prendre la route du Rwanda. Donc les flux de minerais sont très clairs.
Thierry Vircoulon. Et puis à Goma, l'ONU a suspendu ses activités, s'inquiète donc des pénuries de nourriture, de nombreux pillages également. La Croix-Rouge alerte pour sa part sur le risque de dissémination de virus, dont Ebola, à partir d'un laboratoire de la ville. Et l'assaut sur Goma n'est pas sans conséquence. Dans la capitale, à Kinshasa, les ambassades du Rwanda, mais aussi de Belgique, de France, des États-Unis et du Kenya ont été attaquées par des foules en colère. C'est dans ce contexte que l'UE annonce une aide humanitaire de 60 millions d'euros à la RDC et que se tiendra ce soir une réunion du Conseil de sécurité sur la RDC. Toujours sur le continent africain, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui au Niger, au Burkina Faso pour soutenir le retrait de leur pays de la CEDEAO, un retrait qui deviendra effectif demain. Avec le Mali, les deux pays du Sahel dirigés par des régimes militaires ont formé leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel. La Jordanie établit à partir d'aujourd'hui un pont aérien vers la bande de Gaza. Pendant 8 jours, des hélicoptères militaires livreront lors de 16 vols quotidiens de l'aide humanitaire dans la région de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. De l'aide que remettra ensuite le programme alimentaire mondial aux Gazaouis, au sud et au nord. Le nord, que 300 000 personnes ont rejoint pour la plupart à pied. Des images d'exode impressionnantes depuis hier que commande pour nous le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem, Mgr William Chomali, auxiliaire pour la Palestine.
Ce retour massif, vraiment spontané, indique l'attachement des Palestiniens, des Gazaouis à leur terre. Je ne sais pas s'il y a un peuple aussi attaché à sa terre comme les gens de Gaza. Alors que Gaza est un enfer. Vraiment, c'est pas facile d'y vivre. Ils vont vers le nord, il n'y a pas de services sanitaires, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de magasins. Eux-mêmes n'ont pas d'argent. Ils reviennent les poches vides. Mais ils sont attachés à leur terre. Ils ont la nostalgie de leur maison, même si la maison est détruite. Mais aussi, ils vont aussi voir peut-être qu'une, deux, trois, quatre, je ne sais pas, maisons ne sont pas totalement détruites. Peut-être qu'ils pourraient trouver quelque chose, quelques meubles encore en bon état. Et aussi, ils ont eu des parents qui sont restés au nord. Maintenant, oui, ça a un sens politique. C'est une réponse à Trump qui veut que la Jordanie et l'Égypte accueillent au moins 1 million de déplacés palestiniens.
Monseigneur William Chomali, ce soir, Paris estimant forcé serait inacceptable. Et puis au Proche-Orient, toujours, les relations entre Israël et l'UNRWA cesseront d'exister à partir du 30 février, indiquait l'ambassadeur israélien à l'ONU, répétant que l'Agence pour les réfugiés palestiniens devrait avoir quitté Jérusalem à cette date. La Serbie se rapproche-t-elle d'un changement politique majeur depuis l'effondrement d'un auvent de la guerre de Novi Sad qui a fait 15 morts le 1er novembre dernier et que la population et les étudiants ont attribué à la corruption et à l'incompétence du pouvoir en place, eh bien, les manifestations anti-gouvernement étaient devenues quotidiennes. Et après le rassemblement géant d'hier et de cette nuit à Belgrade, des rassemblements plus modestes aussi dans tout le pays, eh bien, le Premier ministre vient de démissionner. Les explications de Laurent Rouy.
Le Premier ministre Miloš Vučević et le maire de Novi Sad, Milan Djuric, ont démissionné ce mardi de leurs fonctions. Raison avancée, des violences commises par les militants du parti au pouvoir à Novi Sad la nuit dernière contre des étudiants contestataires. Une étudiante trouée de coups et à la mâchoire décrochée a été admise aux urgences. Ces violences ont entraîné de nouvelles protestations dans 2 villes de province et un local du parti SNS a été recouvert de graffitis accusateurs. Depuis le début des protestations, les divers incidents violents semblent toujours avoir été le fait de sympathisants du pouvoir, alors que les étudiants sont au contraire restés strictement non violents. La contestation populaire contre la corruption et le régime semi-autoritaire du président Vučić ne diminue pas. Le pouvoir, qui avait lancé lundi un appel à négocier resté sans effet, semble de plus en plus faible. Pourtant, des députés d'opposition ont été empêchés physiquement d'entrer dans le Parlement ce matin et le vote de défiance envers le Parlement a été reporté. Le pouvoir reste aux mains du parti du président Vučić, les étudiants campent sur leurs revendications et le bras de fer continue. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
Et puis enfin, Mgr Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, a achevé ce mardi son voyage dans la principauté de Monaco. Il y était depuis dimanche pour participer aux festivités organisées sur le rocher à l'occasion de la fête patronale de Sainte Dévote célébrée chaque année dans l'État catholique. Plus de précisions sur Internet. Et je vous reprécise notre adresse www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.